Haraucourt, l'homme comestible. Le lieutenant posa son boc vide sur le guéridon de marbre et but la bière de ses moustaches. J'ai failli vous la porter, moi, le clou de l'exposition, et je vous promets qu'on se fut pressé autour de mon gourbi. Il aurait fallu cependant qu'on ne payât point à la porte, car si nous avions seulement réclamé, je sais pas, 10 centimes par visiteur, 20 ans au diable, la foule aurait passé en haussant les épaules, et les rares payants se seraient cru volés par une banquiste. Non, non, j'aurais tout simplement présenté mon article dans une section scientifique ou industrielle. Vous auriez vu le succès. Imaginez à l'alimentation entre le riz d'Asie et le cacao d'Amérique une petite case africaine, bambou et feuilles de palmier, avec cette coquette inscription « Homme comestible ». Parfaitement, un homme comestible, engraissé tout exprès pour la table, superbe, appétissant et joyeux. J'ai eu cet article-là, moi, et l'exposition ne l'a pas eu. Il a manqué. Quand une exposition se vante d'être universelle, son rôle est de nous montrer tous les produits. Que diable! Puisque le commerce de la chair humaine se pratique tranquillement chez nous, pourquoi ne pas montrer au moins un spécimen de la culture? On trompe le monde en lui cachant des choses. Et vous croyez naïvement, vous autres, que l'anthropophagie tend à disparaître du monde, qu'elle se pratique en temps de guerre, peut-être, entre des peuplades perdues, et que cette coutume barbare s'évanouit à l'ombre de nos drapeaux, dès qu'on le plante quelque part. Vous croyez qu'on mange de l'homme quand on est privé de moutons, qu'on mange des ennemis, qu'on mange des vieux parents devenus inutiles, ou des enfants qu'on ne veut pas nourrir? Vous croyez que les victimes ont du chagrin, qu'elles supplient, demandent grâce, tendent les bras, balivernent, et ce qu'on mange ne met pas une façon à monter sur le gris? En voici la preuve, je vous garantis l'authenticité de mon histoire. Nous avions, pendant 6 semaines, remonté le fleuve et nous arrivions au confluent et nous devions atteindre la baleinière du commandant. Dans le village, on nous reçut avec des marques de respect, de sympathie parfaitement simulées, comme les plus faibles en prodiguent aux plus forts. On nous procura des bananes, du poisson frais et des cabris. Nous dressâmes notre tente, et devant, on planta le drapeau tricolore. Les nègres l'entouraient de révérences, comme le fétiche d'un ami, et l'on fit palabre à l'entour. Même on nous offrit le fructou, arrosé de vin de palme et de gin. Les chefs avaient mis, pour nous faire honneur, leurs habits de cérémonie, composé d'un pagne aux couleurs vives, et les couturiers guerriers portaient pacifiquement à leur ceinture, dans un fourreau de cuir enrichi et orné de nacre, leurs machettes. Et les jeunes gens nous donnèrent le simulacre d'un combat. Et quand la fête fut terminée, on nous laissa tranquille. Nous n'avions plus qu'à attendre patiemment l'arrivée de la baleinière, que les Congolais, de leur côté, attendaient avec plus d'impatience. De tout ce que nous pouvons leur offrir, la chose que les Noirs désirent entre toutes, c'est le départ des Blancs. Donc, nous voilà installés, et mêlée à la vie de ces pauvres diables. Oh, elle est bien simple. Ils font grave. Ils sont en grève depuis des milliers d'années. C'est le pays idéal, où le patron doit travailler tout seul et produire pour tout le monde. Le patron, bon enfant, se résigne, car le patron, c'est la nature. Elle frime, et mes gars vont dormir à l'ombre. Quand je dis qu'ils ne font rien, j'exagère. Il faut pourtant ramasser la récolte. Mais on se bouge le moins possible. Et toutes les excuses sont bonnes. Un grand bélitre de 21 ans roulait pendant des heures autour de notre tente. Paresseux, tu fais donc rien? Moi, pas travail. Il riait, très fier, comme si l'oisiveté professionnelle eût été chez lui, comme en France, un privilège d'aristocrate ou de fonctionnaire. Il était beau, solide, sain et toujours content. Lorsque par hasard un de ses compatriotes passait en portant un fardeau, il zézéillait de petites phrases pour narguer le travailleur, et personne ne se fâchait. Quand une femme rentrait au village portant un panier de bananes ou une cruche d'eau, il s'approchait en riant, choisissait deux fruits, trois fruits, les plus beaux de la corbeille, buvait à la cruche, et la femme disait « Lagbé !» Il répondait « Lagbé, oh ! Va-t'en dormir, je vais dormir !» L'interprète lui cria de ma part « Mais tu n'as pas honte ? Ne peux-tu aller toi-même chercher ton repas ? Au lieu de dépouiller les autres, fainéant ?» Il riait et il dit « Moi, pas travail !» J'imaginais qu'il était sans doute prêtre ou sorcier, et qu'il exploitait la crédulité des gens. Dans ce cas-là, rien à dire. Il faut respecter la religion toujours et partout. C'est mon principe. Veux-tu gagner un baïssa? Porte cette malle au bateau. Et il se récria « Co, co, co !» Ce qui signifie « Oh, c'est loin, très loin, trop loin !»« Mais tu te moques de moi ?»« 200 mètres !»« Tu auras un verre de gin !»« Moi, pas travail !» Quel nègre refuse de l'alcool, alors cela passe les bornes. Et la religion, seule, pouvait opérer ce miracle. Je n'insistais donc plus et laissais mon homme en repos. Il continuait son manège, prélevant la dîme à l'entrée du village, et quand cette prébende ne lui suffisait pas, il pénétrait naïvement dans les cases, mangeait le foutou et s'en allait en riant. Laisse ta souhait pour dormir. Jamais un coup de bâton ne l'accueillit, et le doute ne restait plus possible. C'est un sorcier. Je n'en occupais d'ailleurs que pour en rire, et ce gaillard m'amusait par son aisance à exploiter la sottise humaine en dépit de l'égoïsme humain. Il m'amusait aussi par sa bonne humeur perpétuelle. Il me demandait qu'à rire, et tout prétexte lui suffisait. Il riait de voir les gens, il riait d'être seul, il riait de cueillir un fruit ou d'avoir dans le bus à gorgée d'eau. Il riait de marcher, de s'asseoir. Il riait du soleil levant et du soleil couchant, de la brise et de la lune. Il nous donnait l'image de l'homme parfaitement heureux. Un jour, nous vîmes autour de lui, sur la place du village, un gros rassemblement. Il était debout au milieu du cercle, tout nu, et les Noirs s'approchaient de lui, tour à tour, lui traçaient des lignes sur le corps avec une craie rouge. On illustrait sa peau de carrés, de losanges, de cercles, de rectangles. On lui dessinait des anneaux rouges autour des cuisses, des mollets ou des bras, autour du cou. Puis les gens lui mettaient une pièce de monnaie dans la main et il riait. Je manquis du sens que pouvait avoir cette cérémonie. Et l'interprète me traduisit le renseignement. Ben, on va manger l'homme. Chacun choisit et arrête son morceau. Alors, vous pensez si je m'indignais? Au fond, je m'en moquais, et l'affaire était drôle. Je me tardais même de rencontrer des camarades à qui je puisse la raconter. Mais quoi? Je devais empêcher qu'une pareille chose se produisît à l'ombre du drapeau. Je tempêtais, je fis venir ce veau. Je la menaçais de la belle façon. À tout, il répondait en riant. Moi content, moi pas travail, moi bon manger. Et il riait plus fort, touchant du bout du doigt sa fesse ou ses côtelettes. Bon, ça bon. Il allongeait sa libe avec un air de gourmandise, et les yeux arrondis par l'imagination, il gloussait, se gargarisait de salive, mâchonnait et se délectait des excellents morceaux qu'il continuait à désigner du doigt. Ouais, bon, fort bon. Bon. Mais tu n'as pas honte, malheureux? Je lui parlais de la dignité humaine et je sentis que j'avais tort. Tu es un homme libre depuis que la France. Moi, pas travail. Moi, bien soigné. Moi, content. Moi, bon. Mais c'est une honte de se vendre et tu devrais rougir. Toi, pas savoir. Toi, pas goûter. Bon. Toi, pas bon à manger, blanc. Poivre. Blanc mauvais, blanc sucré. Nègre bon. À ma place, qu'est-ce que vous auriez répondu? Des bêtises. Alors j'en ai dit. Les grands mots de lâcheté, d'infamie. C'est des opinions, ce n'est pas des arguments. Pensez de moi ce que vous voudrez. Je ne trouvais rien à répondre pour convaincre cet homme qui n'était pas content ou qu'il avait tort d'être content. Il retourna sur la place, recommençant à appeler avec de petits cris, gutturaux, la clientèle. À ma place, qu'est-ce que vous auriez répondu? Des bêtises, oh, j'en ai dit. Les grands mots de lâcheté, d'infamie, c'est des opinions et ce n'est pas des arguments. Pensez de moi ce que vous voudrez. Je ne trouvais rien à répondre pour convaincre cet homme qui n'était pas content ou qu'il avait tort d'être content. Il retourna sur la place, recommençant à appeler avec de petits cris gutturaux la clientèle. Je ne pouvais cependant pas souffrir on se moqua ainsi de mon prestige et de mes remontrances. Je fis empoigner le nègre. Je crois bien que j'eus tort, car nos amis de la veille entouraient la tente avec des grognements de menaces, et je dus faire prendre leurs armes, et le chef vint parlementer. Je prétendais que le veau rendit l'argent aux acheteurs, mais il s'y refusait. On le lui prit de force, et pour la première fois, je le vis triste. Le chef emporta les pièces de monnaie et les restitua aux clients. Mais, sans doute, chacun d'eux réclamait plus qu'il n'avait donné. Alors une bagarre s'ensuivit, et les clameurs devenaient inquiétantes. Les femmes jetaient des pierres, et je ne sais comment l'affaire aurait tourné si la baleinière du commandant n'était arrivée pour nous sortir de peine. Oh, le canon est un orateur admirable. Oh, il n'a pas besoin de parler pour qu'on l'approuve. On n'a qu'à se montrer. Grâce à lui, nous pûmes transporter à bord notre bétail humain, auquel on dit « Tu resteras avec nous, tu travailleras à la manœuvre, tu gagneras ta vie, tu es un homme libre. » Il écoutait et ne riait plus. Les deux baleinières partirent de conserve, mais à la tombée de la nuit, le nègre se laissa glisser dans la rivière sans qu'on s'en aperçût et retourna vers ses clients qui le soignaient bien. Il aimait être mangé, c'était sa vocation.